Je sais pas l'expliquer, mais je sais que ça va se passer comme ça.
On me dit que j'ai toujours raison après coup, mais sûrement personne ne me croit, alors que pour moi, c'est évident.
Lui, je le sens pas. C'est clair, ça va pas le faire, je te parie.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Appelez ça pensée intuitive, sixième sens ou même petit doigt m'a dit. Bref, c'est un ressenti qui vous est forcément familier. Certaines personnes considèrent ça comme une certitude, une évidence. Eureka, la révélation, l'éclair de génie. C'est sans doute l'une des plus extraordinaires facultés du cerveau. La définition de ce mot est double. Connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience, d'une part, et d'autre part, sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Einstein, lui, nous disait « Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Pour résumer, une intuition est la partie visible de l'iceberg, qui est le processus de l'intuition. Étymologiquement, cela vient du latin « intuere », regardez attentivement. Cette notion d'intuition est souvent définie par ce qu'elle n'est pas. C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Pourtant, elle fournit une information pertinente d'emblée, sans recours à l'analyse. Donc elle n'est pas le résultat d'un raisonnement inconscient, mais le fruit d'un mode d'accès particulier à l'information. Intuitio, donc l'image réfléchie dans un miroir, désigne l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi. Il s'agit d'accéder à une connaissance qui provient de l'intérieur de nous. C'est là où les racines latines prennent tout leur sens. Longtemps considérée comme irrationnelle, à la frontière même du parapsychologique, l'intuition est désormais un vrai domaine de recherche. L'Américain John Cunyos, professeur de psychologie à l'université Drexel, co-auteur avec Bart Mehman d'Eureka Factor en 2015, en a notamment fait un objet d'étude. Personne ne sait si Archimède a réellement crié Eureka en sautant de son bain et couru dans Syracuse en clamant sa découverte, explique-t-il. Mais l'histoire a perduré durant deux millénaires car elle résonne en nous. Comme lui, nous avons des « ha moments », comme on dit en anglais, des moments d'illumination qui sont des expériences puissantes qui peuvent changer pour certaines la face du monde. Selon le chercheur Herbert Simon, l'intuition fonctionne ainsi. La situation fournit un indice, cet indice donne à l'expert un accès à une information stockée dans sa mémoire et cette information, à son tour, lui donne la réponse. Donc l'intuition n'est rien de moins que, finalement, la reconnaissance. En psychologie, Carl Gustav Jung, dans sa théorie des types, indique que l'intuition fait partie des grandes dimensions psychologiques. Pour ce qui concerne la dimension perception, comment nous percevons les choses, certains sont de type intuition, d'autres de type sensation, que vous pouvez retrouver dans le fameux MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, qui a été créé par après. L'intuition, c'est finalement le fait de savoir sans savoir. La science cognitive commence à élucider la présence forte, mais parfois inexplicable, de ce raisonnement inconscient dans nos vies et pensées. Elle est souvent considérée comme non scientifique à cause de ses connexions avec le psychique, voire parfois le paranormal, mais pourtant ce n'est pas un pouvoir surnaturel pour les amateurs de science-fiction. D'ailleurs, même l'armée américaine mène des recherches sur le pouvoir de l'intuition pour aider les troupes à prendre des décisions rapides au combat et à sauver des vies. Je vais vous parler de l'histoire du docteur de Judah Folkman qui a fait une découverte révolutionnaire dans le traitement du cancer dans les années 70, à la suite d'une formidable série d'intuitions. Il s'engage dans la marine sur un porte-avions nucléaire. Sa mission, étudier la fabrication d'un sang artificiel pouvant être conservé au bloc opératoire durant de longues traversées. Il fait des expériences sur la survie des cellules cancéreuses de souris quand on les plonge dans des bains d'hémoglobine et il constate quelque chose d'inattendu. Elle cesse de se multiplier dès qu'elle forme une tumeur de la taille d'une tête d'épingle. Il a alors une première intuition. Les tumeurs ont besoin d'un apport substantiel en sang par les vaisseaux sanguins, sinon elle ne peut pas se développer au-delà d'une certaine taille. Et là, il se dit que s'il parvient à isoler les facteurs chimiques qui régulent la formation des vaisseaux sanguins, et bien alors il pourrait contrôler les tumeurs et même les tuer en les privant de nourriture. Et sa théorie reçoit un très mauvais accueil, elle est jugée comme ridicule et personne ne veut la financer. Mais il s'accroche à son intuition, il le sentait. Et finalement, le phénomène si vous le connaissez peut-être sous le terme angiogenèse, sera reconnue comme une étape clé dans la progression du cancer dans les années 90. Il y a plein d'autres exemples. En tout cas, le point commun de toutes ces découvertes, c'est qu'elles ne procèdent pas de la pensée analytique. L'intuition est souvent vue comme le fait d'atteindre des solutions de manière directe, sans l'intervention d'un raisonnement logique et analytique, confirme Janet Metcalf, responsable du laboratoire Métacognition et Mémoire à l'Université Columbia. Alors que la pensée analytique procède par étapes, accumulant les arguments pour construire un raisonnement, l'intuition, elle, va surgir, provoquant une grande émotion. C'est ce qui induit qu'il existerait plusieurs façons de prendre des décisions et de trouver des solutions. Il y a même de plus en plus de preuves, combinées avec de nombreuses recherches et études, qui suggèrent que l'intuition définit la manière dont les humains interagissent avec l'environnement et comment, au final, la plupart de nos décisions sont prises. Il faut savoir qu'il y a plusieurs approches de cette notion d'intuition. D'abord, l'intuition vient du cerveau. Alors ça, c'est ce que nous disent les neuroscientifiques et les neuropsychologues qui étudient l'intuition depuis une vingtaine d'années. Pour eux, c'est l'intelligence de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est notre inconscient qui est tout à coup capable d'amasser plein de données, un peu à l'insu de notre plein gré, et faire des conjectures, des associations, des rapprochements. Il y a une deuxième approche de l'intuition qui postule qu'elle dépasse le cadre du cerveau et de l'individu et qu'elle vient d'un champ d'information collectif, une espèce de transmission d'inconscient à inconscient. Et c'est là l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. D'autres expliquent aussi que le mot intuition, si on s'en réfère à son étymologie, le lie à la notion d'empathie. L'empathie combinant l'ensemble des ressources de l'individu, à la fois sensation, émotion, intellect, mémoire, imagination et intuition, et qui finalement va nourrir un mode de reconnaissance du monde. En tout cas, les intuitions sont de plus en plus étudiées. Une étude de Samuel Gosling du département de psychologie de l'Université du Texas à Austin, publiée en 2002, le montre. Le chercheur a fait visiter à des volontaires des chambres d'étudiants pendant quelques minutes, avant de leur demander de répondre à un test pour cerner les principaux traits de caractère de l'occupant. Les observations ont montré qu'une personne qui a examiné brièvement un environnement forme des impressions qui concordent avec celles des autres et qu'en général elles sont pertinentes. En revanche, si les volontaires ont de longues minutes pour réfléchir et délibérer, alors là on observe qu'ils se trompent le plus souvent. Les études montrent que la délibération va introduire une sorte de bruit dans le processus de prise de décision. D'une certaine façon, trop réfléchir nous éloigne de nos vraies préférences et de nos vraies intuitions. Analyse et intuition seraient donc deux fonctions cérébrales bien distinctes. Janet Metcalf nous explique que la chose la plus intéressante qu'elle ait pu observer est que, si lors de la résolution d'un problème intuitif, une personne ressent qu'elle se rapproche de la solution, ça prédit qu'elle va bientôt produire une mauvaise réponse en général. Et qu'en est-il dans le milieu professionnel ? Dans les années 70, Harry Mintzberg, un chercheur canadien en stratégie et management, a pointé la part de l'informel et de l'intuition dans le travail des cadres, notamment pour communiquer et décider. Le manager efficace ne choisit pas entre les approches analytiques et intuitives des problèmes, il utilise les deux. En entreprise, c'est donc paradoxal. Par prudence et par sécurité, on va cultiver la religion du chiffre, de l'analyse, de l'argumentation. Mais on veut également sortir du cadre, innover, développer rapidement. Cette injonction paradoxale explique pourquoi, lors d'une vaste enquête menée par la Harvard Business School dans les années 90, 80% des cadres dirigeants ont admis utiliser leur intuition, mais seuls 50% étaient prêts à le reconnaître. Les dirigeants réussissent mieux que la moyenne aux tests intuitifs. C'est moins frappant aux échelons inférieurs où les décisions sont contrôlées et doivent reposer sur des data, une analyse des précédents. Et c'est aussi une question d'entraînement. Au bout de 2-3 réussites dans un contexte flou, le mental s'adapte. On retrouve là justement tout l'intérêt pour les atypiques du cerveau qui permettent de penser hors du cadre et d'avoir des intuitions ou des modes de pensée totalement différents qui sortent de la norme et qui du coup peuvent permettre des intuitions différentes, cruciales pour les entreprises. Mais alors comment fonctionne cette intelligence rapide, cette connaissance inconsciente, cette intuition ? Des chercheurs ont observé au Japon le cerveau de joueurs de shogi, des échecs japonais. Ils ont découvert que l'intuition a deux moteurs, c'est-à-dire le premier est lié à l'expertise, se met en route dans une situation archi connue. Quand l'expertise est en panne et qu'on se retrouve dans une situation inédite, le second moteur, lié à la mémoire, souvent émotionnelle, se met en marche. Il va alors fouiller à toute vitesse dans le catalogue des souvenirs personnels à la recherche d'un événement proche. Et on en arrive à l'intuition. En situation d'urgence, les décideurs prennent des décisions intuitives qui reposent reposent sur leur expertise ou leur expérience émotionnelle antérieure ou sur des émotions immédiates lorsque la situation n'est pas familière. Attention toutefois, car on ne peut pas appliquer ce principe d'intuition à tout type de décision. Il n'y a pas d'intuition absolue. Même si les études s'accordent à dire que dans une situation critique, la prise de décision sur des bases intuitives est plus fiable que la prise de décision rationnelle ou analytique, il ne faut pas non plus oublier certains biais cognitifs. Pour nos atypiques du cerveau, l'intuition peut être un mode de fonctionnement. Comme le cerveau a des connexions neuronales différentes, ce qu'il se passe au niveau de l'intuition se fait différemment, peut être plus rapide, peut donner d'autres solutions et donc peut être très précieux en entreprise. Mais alors, est-ce que l'intuition serait la nouvelle mode qui viendrait par exemple détrôner celle du QI ? La tendance semble s'être inversée avec la multiplication d'ouvrages sur le développement personnel pour libérer la parole des intuitifs, pour les encourager à se mettre en avant, pour ne plus se sentir incompris par leur entourage, comme l'affirme Béatrice Millettre. À partir de là, nous dit-elle, on s'est rendu compte que l'intuition était une arme redoutable pour gagner du temps au travail, être plus créatif et prendre de meilleures décisions au quotidien. Est-ce qu'on va passer de l'ère du tout rationnel à celle du tout intuitif ? Non. Il faut juste rétablir le dialogue entre ces deux pôles. Comme on vit dans un monde ultramatérialiste, qui a l'arrogance de croire qu'on peut tout expliquer et tout contrôler, ce modèle s'est épuisé et il a besoin désespérément de créativité pour sortir de l'impasse. Pour autant, si on verse dans le tout émotif, on fera aussi des dégâts. Attention toutefois au biais. Comme le dit si bien Daniel Kahneman dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, la thèse centrale de son livre est la dichotomie justement entre deux modes de pensée, le système 1, rapide, instinctif, émotionnel, et le système 2, plus lent, plus réfléchi et plus logique. Le livre définit les biais cognitifs associés à chacun de ces modes de pensée et il nous explique qu'il faut faire attention à ne pas non plus montrer une trop grande confiance dans le jugement humain intuitif. Bref, comme bien souvent, le curseur se trouve au milieu. L'intuition a encore de beaux jours devant elle. Comme dirait le dramaturge Henri Bernstein, l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Et ça, ça correspond bien à nos atypiques du cerveau. J'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des atypiques du cerveau.